Vous écoutez un podcast Top Music.
Premier sur la région.
Top Music.
Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils. Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences. En musique et en anecdotes, un podcast à emporter partout.
J'ai un peu l'impression, quand je suis sur mes rollers, d'avoir un super pouvoir. C'est le super pouvoir de rouler. Des années d'entraînement, des dizaines de blessures. J'essaie toujours de penser aussi au gamin que j'étais à 14 ans, comme il serait fier de moi d'être là aujourd'hui encore et de donner le meilleur. Comme dans tous les sports, et peut-être encore plus dans celui-là, dans le sens où il est libre, connaître ses atouts et capitaliser dessus.
Ce n'est pas la première fois que Nicolas Mougin monte sur le podium. Champion d'Europe en 2016, 17 et 18, vice-champion du monde en 2019, sa discipline, c'est le roller freestyle, un sport spectaculaire qui se pratique dans la rue ou sur des doubles tremplins courbes évoquant la forme d'un demi-tube qu'on appelle le half-pipe. En 2005, il organise son premier NL Contest, une compétition internationale de skate, BMX, trottinette, roller et cultures urbaines à Strasbourg. Près de 40 000 spectateurs ont participé à la dernière édition dans une ambiance survoltée. Les meilleurs riders du monde entier s'y retrouvent chaque année pour faire le plein d'adrénaline. Leurs exploits sont filmés et diffusés sur le web comme un défi à une société de plus en plus avide de prise de risque. Alors Nicolas, vous sautez, la hauteur ne vous fait pas peur, la vitesse c'est incroyable, vous êtes un sportif de l'extrême et les défis sont toujours plus dangereux. Comment on tient la rampe à ce rythme ?
La passion, je pense, ça devient une drogue au bout d'un moment, c'est un sport qui est tellement complet, à la fois physique, technique, oui effectivement, qui suppose de se remettre en question en permanence par rapport à la prise de risque. Donc moi je suis complètement passionné depuis que j'ai découvert ce sport et je pense que c'est ça qui me tient.
Vous avez découvert ça comment et à quel âge ?
J'ai découvert ça en 92, on était en vacances dans les Alpes avec mes parents à Val d'Isère et il y avait un parc des sports où on peut faire du tir à l'arc, du cheval, du golf, etc. Puis on était là en tant qu'enfant avec mon frère et il y avait une personne qui faisait essayer des rollers en ligne, ce qui n'existait absolument pas du tout en Europe en 92. C'est en fait quelqu'un qui entraînait une équipe professionnelle de hockey au Canada. Et il avait ramené des États-Unis ces bizarreries de l'époque, en l'occurrence les rollers
en ligne. Donc le roller en ligne, on pourrait expliquer, c'est une chose. Et en dessous, on a combien de roulettes ?
4, normalement 4 en ligne. C'était un peu ça la nouveauté par rapport aux patins traditionnels.
Aux patins où on avait 4 en carré comme ça, ouais.
Qui reviennent aussi à la mode d'ailleurs aujourd'hui. Mais en tout cas, cette innovation technique, c'est vraiment, c'était une nouveauté à l'époque. Et donc, ça m'a bien plu. Et dès que c'est arrivé dans les magasins français, j'ai acheté parmi les premières paires. Et puis après, ça a commencé comme ça. On en faisait dans la rue avec les voisins.
Au départ, c'est pour se déplacer plus vite.
Oui, tout à fait. C'est pour se déplacer exactement comme aujourd'hui la trottinette, le vélo, etc. Et donc ça m'a bien plu parce que en fait j'ai un peu l'impression quand je suis sur mes rollers d'avoir un super pouvoir, c'est le super pouvoir de rouler. Contrairement aux autres engins,
on est totalement libre, c'est ça ?
On est libre, C'est-à-dire que les rollers sont attachés à vos pieds, donc quand on fait des sauts ou des figures, il n'y a pas à se poser la question de comment je garde mon skateboard sous mes pieds parce qu'il n'est pas attrapé, comment je garde mon vélo entre mes jambes parce qu'il n'est pas attaché, etc. Donc j'aime bien cette liberté-là. C'est vraiment une extension de mon corps.
Mais alors, bon, ok, vous découvrez ça, vous avez quoi, 15 ans, c'est ça ?
Ouais, 14-15 ans.
14-15 ans. De là, en faire un sport. C'était déjà un sport de haut niveau ?
Non, pas du tout, parce que c'était vraiment nouveau. Donc, le skateboard existait depuis la fin des années 70, même je pense plutôt le début des années 70 d'ailleurs. Donc, eux avaient déjà effectivement des compétitions, des structures adaptées et tout ça. Et nous, en roller, pas du tout. Donc, au début, je pensais même pas que c'était possible.
Donc,
de
vous
ne
pouviez pas prendre de cours, par exemple ?
Ah non, non, on a appris tout seul dans la rue, entre nous. Mais c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est des disciplines qui sont un petit peu en marge de ce côté-là, elle se pratique en toute liberté dans la rue et je pense que le fait qu'il n'y avait pas de cadre, ça nous a plu aussi. C'était notre truc à nous, quoi, sans contrainte.
Vous faisiez ce que vous vouliez, vous inventiez
exactement
vos figures, mais quoi, en regardant quand même les skateurs, en regardant
au début, pas trop,
les skieurs
parce qu'on les a
peut-être
pas vus, mais après, oui, assez rapidement, il y avait une petite rampe à Haguenau à côté du lycée et on se baladait là-dedans et puis on copiait ce que faisaient les skateurs qui étaient là avant nous. Jusqu'au moment où sont arrivées les premières vidéos, et là, les premières vidéos qui venaient des États-Unis, encore en VHS à l'époque. Et là, on est tombé des nues.
On dirait que vous êtes très âgé, mais au final, vous avez quel âge ?
J'ai 42, là.
Oui, donc vous êtes très jeune, quand même.
Tout est relatif. Vous m'auriez dit ça à 20 ans, je me serais trouvé vieux. Mais oui, donc on a pris une bonne claque parce qu'en fait, bah, y avait effectivement des athlètes de très haut niveau qui avaient déjà commencé à pousser sacrément le niveau et on pensait qu'on était les meilleurs du monde à sauter trois petites marches en 180 et retomber en arrière et tout. Et en fait, il y avait des gens bien meilleurs que nous qui faisaient déjà bien plus.
Mais pas donc, en France alors du
non,
coup.
Non, plutôt aux États-Unis. Ouais. Après, en France sans doute aussi, mais on les connaissait pas. La communauté ouais, était ouais. en train de se constituer. Et après, ça s'est constitué autour d'événements. Il y a beaucoup de marques qui ont commencé à investir dans ces sports-là parce que c'était les sports à la mode chez les jeunes et que pour une marque, c'est toujours intéressant d'avoir un public jeune. Et ça a vraiment lancé la mode des sports urbains. Qui sont devenus vraiment énormes aujourd'hui, mais ça a démarré avec cette étincelle du inline. Le skateboard était là avant, le BMX aussi un petit peu.
Donc le BMX, c'est du vélo.
Ouais, c'est les petits vélos qu'ils utilisent aussi pour faire des acrobaties. Je pense que vraiment, c'est l'innovation plus ou moins technologique, même si c'est pas révolutionnaire, du roller en ligne, qui a lancé une mode et qui a ensuite mis le focus sur ces sports un petit peu différents. Et tout ça a ensuite été assez vite relayé par l'arrivée aussi d'Internet, des vidéos, des choses ouais. comme ça. Et ce qui plaît toujours aujourd'hui dans ces sports, c'est que c'est des sports qui rentrent pas dans un cadre. Je veux dire, bien sûr, depuis le temps maintenant, il y a des clubs, il y a une fédération, il y a des compétitions, etc. Mais cet esprit de liberté, c'est un peu comme le surf de mer ou le snowboard. C'est des sports qui se pratiquent dans la rue, sans contrainte. Il y a tout un style qui s'est créé autour ouais. de ces cultures urbaines. Moi, quand j'ai démarré, il y avait vraiment le style du baggy pants avec les pantalons super larges. Il y a un style musical qui est lié à ça, on est lié aussi à un courant artistique parce que dans les lieux de pratique il y a souvent c'est des friches industrielles ou des skateparks où il y a souvent des graffeurs, donc il y a toute une culture qui s'est greffée autour de ça pour devenir vraiment un mouvement très large.
Et donc quand vous avez commencé tout seul à Agno sur votre petite rampe, comment vous vient l'idée que ça va devenir votre vie?
Alors, ça m'est
jamais
venu
à l'idée. Parce que s'il n'y a pas de compétition, s'il n'y a pas de fédération, s'il n'y a pas de...
Non, ça m'est jamais venu à l'idée. Nous, à l'époque, on pratiquait, on s'amusait entre copains, on essayait de devenir les meilleurs possibles. Après, on copiait sur les vidéos pour essayer de reproduire les figures que faisaient les pros aux États-Unis, mais j'ai jamais pensé en vivre. Et d'ailleurs, ça n'a jamais été
donc
le cas.
Donc, c'était 100% hein. plaisir, quoi.
Voilà, tout à fait. Ouais, ouais. Vraiment juste passion.
Mais avec des entraînements que vous vous imposiez vous-même ou des...
Ah mais j'étais toujours sur les rollers tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et encore aujourd'hui, j'essaie de m'entraîner tous les jours. Donc je pense que j'ai plus d'entraînement que si j'étais dans le club, quoi. Mais par contre, le fait qu'il n'y ait pas de cadre, ouais, moi ça convient à ma personnalité. Et puis après, assez rapidement, avec ces histoires de marques qui sont venues investir dans le sport, il y a eu plein de petites compétitions qui ont été montées. Mais jamais officielles. C'est un peu comme dans la boxe ou des sports comme ça. C'est des circuits de compétition qui sont souvent promus plutôt par une marque ou par un organisateur. Mmh. Mais c'est pas forcément les championnats du monde officiels reconnus, etc. Donc ça, c'est venu plus tard.
Donc vous faisiez des petites compètes, ouais.
C'était le Vittel Rollerblade Tour. Alors je sais plus quelle année, 94, 95, j'en sais rien, à Strasbourg. Et nous, on venait de notre petite rampe d'Aguenau. Et je m'étais cassé le bras peu avant, parce que bon, voilà, c'est une pratique dangereuse. J'ai quand même supplié ma mère de me laisser y aller. Est-ce qu'elle a accepté? Parce qu'elle est super sympa et elle nous a toujours bien soutenus. Et en fait, à l'époque, tout le monde était en train d'apprendre des saltos, des figures un peu compliquées, mais on lançait n'importe comment et on n'arrivait pas à vraiment les réussir,
atterrir.
Donc on tombait.
Ouais.
Et moi, comme j'avais le bras cassé, ben, j'ai fait un truc beaucoup plus simple et que je maîtrisais bien, et du coup, j'ai gagné.
C'est vrai?
Avec le bras dans le plâtre.
Ouais. Ah, donc c'est pour ça qu'on dit freestyle, c'est-à-dire que vous faites les figures que vous voulez?
Ah oui, oui, il n'y a aucune figure imposée. Aujourd'hui, avec plus de 20 ans d'ancienneté dans le sport, la plupart des figures ont été faites, mais il y a quand même encore des gens pour en inventer des nouvelles. On a au sein des rotations qu'on va pouvoir faire, que ce soit des rotations droites, des saltos, des choses comme ça, on peut attraper les pieds d'une certaine manière, positionner son corps d'une certaine manière, ce qui rajoute encore quelque chose à la figure. Chacun est libre de faire ce qu'il a envie. Moi, dans ma discipline, le halfpipe, on est contraint par le module, donc cette espèce de rampe dans laquelle on évolue. Mais après, dans la rue, il y a tout le principe d'essayer de justement détourner le mobilier urbain pour faire des acrobaties. Donc les trucs standards, ça va être de sauter des marches ou de glisser sur des rambardes d'escalier ou des murets. Mais après, vous allez avoir des gens qui vont, je sais pas moi,
sauter
rouler sur la
barrière
d'un pont ouais. pour ensuite sauter par-dessus la poubelle pour retomber sur le rail et ensuite passer par-dessus. Enfin, on peut inventer des milliers de choses. C'est un peu comme ce sport qu'on connaît aussi qui s'est révélé il y a quelques années, le parcours, là, le truc des Yamakasi.
Ouais.
En là, fait, ils appellent ça l'art du déplacement. Donc,
là, pour le coup, ils n'ont rien
non,
comme
ils
matériel.
Ils utilisent juste leur corps et puis ils vont sauter d'une fenêtre à un toit, un mur, etc. Donc, c'est vraiment dans la même veine. Quoi.
Mais alors, à partir de quand ça devient un sport Alors, c'est pas un sport olympique, hein, mais c'est un sport aujourd'hui qui est quand même couvert par une fédération avec des championnats du monde, des championnats d'Europe, etc.
Ça a commencé quand même assez vite. Alors, juste pour revenir sur l'olympisme, depuis peu maintenant, le skateboard et le BMX
cette année, hein, c'est la première année.
C'est la première année. Ouais. Le roller, c'est pas encore le cas.
Pourquoi?
Moi, je pense qu'il y a des histoires de lobbying et de politique au sein des sports. Et puis après, peut-être qu'on n'a pas assez bien défendu non plus notre dossier au niveau du roller. Et clairement, aujourd'hui, en termes d'industrie, le skateboard et le BMX se sont un peu mieux développés ces dernières années. Parce qu'il y a l'industrie de la chaussure derrière, il y a des marques communes à toute la board culture, donc surf, snow et skateboard. Donc c'est une industrie qui s'est beaucoup mieux structurée que la nôtre, mais c'est en train de revenir. Là, j'entendais récemment que depuis le confinement, les ventes de rollers avaient augmenté de 600%. Donc on a aussi, c'est un peu des modes. Hein. Mm-hmm. Donc on a connu des cycles. Le dernier cycle en date, c'est la trottinette qui est devenue vraiment un sport qui est venu très fort, alors que c'est sans doute quelque chose de très ancien que nos grands-parents ont déjà connu, hein. Mais qui revient là, et c'est vrai que ça attire beaucoup les jeunes. Voilà, on ne sait pas quel sera le prochain sport à la mode, mais c'est...
Et vous influez là-dessus, c'est-à-dire vous travaillez avec des marques ou des industries pour améliorer le roller?
Alors, enfin, moi j'ai des sponsors, donc Après, je suis pas moi-même à l'origine des réflexions au niveau technologique. Quoique, là, j'avais mon sponsor roller là qui s'appelle FR, qui m'a donné un prototype il y a pas longtemps. J'ai fait quelques retours sur effectivement la technique du patin, mais c'est pas moi. Je sais en tant qu'utilisateur ce qu'il faudrait peut-être améliorer, mais je suis pas ingénieur. C'est pas là, j'ai pas développé de compétences dans ce domaine-là, quoi.
Et vous dites que vous entraînez tous les jours, c'est-à-dire?
Ben en fait, la problématique que moi j'ai ici à Strasbourg, c'est que y a pas de rampe couverte et nos pratiques peuvent difficilement se faire quand c'est mouillé parce que ça glisse, c'est juste pas possible. Donc pendant la belle saison, j'essaie de m'entraîner presque tous les jours. J'essaie de faire un ou deux jours de break pour que mon corps récupère. Et sinon, je m'entraîne tout le temps en fonction de la météo. Et en hiver, je vais un peu plus loin à skatepark couvert. Il y a pas de halfpipe, mais il y a ce qu'on appelle un bol. Donc c'est à peu près la même chose, mais sur une structure un peu plus compliquée. Donc je peux pas faire tout à fait les mêmes figures, mais ça me permet quand même de compléter un peu mon entraînement et surtout de me maintenir physiquement.
Alors justement, physiquement, qu'est-ce qu'il faut pour faire ça? Parce que vous passez votre temps en l'air ou au sol.
Ouais, alors on tombe beaucoup. Hein. C'est vrai que ceux qui n'ont pas l'habitude, ou les gamins quand ils viennent au skatepark, qu'ils n'ont jamais vu ça, ils voient les gens tomber. Puis les chutes peuvent être impressionnantes.
Parce que vous tombez d'eau quand même quand vous allez faire votre demi-tour là-haut.
Moi, on monte entre 2,50 m et 3 m, voire plus au-dessus de la rampe qui en fait 4,50 m. Donc quand on tombe, on peut tomber potentiellement de 7 m. Tout l'art de la discipline, c'est justement de savoir quelle prise de risque on prend et puis de calculer les risques. Moi, sur chaque figure que je fais, je sais exactement comment il faut que je me rattrape si je suis parti trop à droite, trop à gauche, trop en avant, trop en arrière.
Parce qu'on n'a pas de protection, c'est un sport qui se fait sans protection.
Alors si, déjà je ne riderai jamais sans casque, j'ai eu quand même déjà 3 traumas crâniens et dont certains, je pense que je ne serais pas là à vous parler si je n'avais pas eu le casque. Donc ça, je ne plaisante pas avec ça. Comme on est noté sur des critères d'esthétique, de technique, de prise de risque, mais aussi justement d'esthétique, le côté de mettre trop ou beaucoup de protection, ça peut être moins beau en compétition.
Ah, oui.
Et puis ça gêne aussi. Et de toute façon, moi ce que je dis toujours, vous pouvez avoir le meilleur protège-poignet du monde, si vous tombez mal sur le poignet, au lieu de casser au poignet, vous faites une fracture ouverte au niveau du bras. Donc la meilleure protection, c'est avant tout de connaître ses limites et puis d'essayer de gérer le risque au maximum. Et ça se fait avec beaucoup d'entraînement et effectivement, pour ma part, depuis quelques années, un peu plus d'entraînement physique à côté. Enfin, je faisais pas ça à 20 ans, j'aurais été encore meilleur, mais là, aujourd'hui, à 40 ans passés, je suis obligé de faire un peu de gainage, de muscu, parce que finalement, la
un
meilleure
peu, c'est
protection...
Quoi c'est tous les jours?
Non, je m'entraîne tous les jours et je fais à peu près 2 heures de séance par semaine de muscu et de gainage.
Et donc, quand vous étiez jeune, vous n'en faisiez pas du tout?
Que pratique.
On ne se muscle pas, on ne cherche pas, parce que souvent, les skateurs, enfin, c'est des gens très, très minces.
Ah, mais en fait, la pratique l'impose, quoi.
Ah ouais.
C'est des sports explosifs, très toniques. En fait, moi, quand je fais un run de compétition, c'est pire qu'un sprint au niveau de l'engagement physique. Ça demande une exigence vraiment physique très, très forte. Donc oui, la pratique en soi, déjà, elle muscle beaucoup. Après, comme on n'avait pas cet accompagnement sur notre pratique sportive, j'ai quand même découvert que assez tard ce que je pouvais faire en complément et qui pouvait m'apporter, quoi. Et donc aujourd'hui, oui, à haut niveau, ils ont effectivement des coachs sportifs et puis ils vont travailler beaucoup. Ce qui est important, c'est le gainage, la souplesse et la muscu pour se protéger en cas de chute, quoi.
Ouais. Et peut-être aussi le ressort, non? Il faut pas savoir sauter ou je sais pas quoi.
Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la force explosive. Ça dépend des mouvements, mais oui. Il y a quand même pas mal de souplesse aussi pour pouvoir être à l'aise dans ses mouvements, dans ses figures.
C'est presque de la danse, c'est presque une chorégraphie en fait.
Ouais. Ouais, un peu. Je pense qu'en termes de préparation physique, ça doit se rapprocher de la gymnastique, en fait, aussi, en termes de ce que ça demande comme exigence. Après, la gymnastique, c'est aussi un sport dangereux, mais la grosse différence, là, c'est que ce sont des sports où les figures ne sont pas imposées et la prise de risque, elle est recherchée en tant que telle.
Oui, c'est ça.
Que plus quelqu'un fait un truc dangereux, plus il sera... sera impressionnant pour les juges et il sera bien noté.
Alors revenons justement à ça, les juges, le podium, tout ça, ça arrive à quel moment ?
En fait, ce qui a été un déclencheur pour moi, j'ai fait beaucoup de petites compétitions en local et puis ce qui a été vraiment un tremplin, c'est quand j'ai gagné les championnats de France en 2002. Donc je suis rentré en équipe de France et à partir de là, j'ai pu tourner avec l'équipe de France et partir aux États-Unis pour me qualifier sur le circuit américain.
Donc là, il y avait déjà une équipe de France de roller.
Ouais, il y avait une équipe de France. Donc j'ai fait les qualifications amateurs et je me suis qualifié pour les finales amateurs. En fait, le circuit américain, c'était pas un circuit vraiment officiel à l'époque, mais c'était le seul qui existait. Donc c'était vraiment les championnats du monde pour tous les gens de la discipline, puisqu'il n'y avait rien d'autre. Et donc chaque année, en fait, il y avait des finales amateurs. Ils prenaient les 3 ou 4 meilleurs amateurs pour basculer dans le sérail des professionnels et ensuite pouvoir concourir sur le circuit pro. Donc le circuit pro, c'est pareil, il y avait plein d'étapes un peu partout aux États-Unis et dans le monde, et à la fin, une finale pour définir qui seraient les champions du monde. Donc j'étais qualifié là en 2004 pour aller à Los Angeles faire les championnats du monde amateur.
Donc là, vous aviez quel âge ?
23 ans.
Vous emmenez une musique avec vous
à l'époque, j'écoutais
pour vous donner du courage.
Alors dans les vidéos, il y avait beaucoup de punk et de métal, donc à l'époque, j'écoutais beaucoup ça. Rancid, c'est un groupe de punk américain, et il y a une chanson qui s'appelle « I Want a Riot ».
Vous partez aux États-Unis tout seul, enfin en tant que Français, vous étiez combien sélectionnés ?
On était 2 de l'équipe de France, plus le sélectionneur de l'équipe de France. Mm-hmm. Et en fait, on est arrivé en retard, donc j'ai pas pu faire les trainings. En plus, la rampe sur laquelle je m'entraînais à l'époque, elle venait de brûler à Strasbourg, il y a quelqu'un qui avait mis le feu. Ce sont des structures en extérieur, libres d'accès, hein, les skateparks la plupart du temps. Donc c'était compliqué pour moi pour m'entraîner juste avant. Et puis en plus, il faut savoir qu'à l'époque, les rampes qu'on avait en Europe, elles faisaient 3,80 m de haut maximum. Alors qu'aux États-Unis, ils étaient déjà sur des rampes qui font plus de 4,50 m de haut. Donc ça change tout en termes de technique, c'est vraiment très difficile de s'habituer. Et donc je suis arrivé au training, j'arrivais à rien à faire du tout. Je me suis entraîné avec les pros, ils m'ont laissé passer, je pense. Ils ont bien vu que j'étais pas professionnel, mais ils ont été tolérants, ils m'ont pas sorti, voilà. Donc j'ai rien lâché, j'ai essayé de m'entraîner pour m'habituer à cette rampe, j'arrivais pas. Et jusqu'à la compétition, j'étais incapable de rentrer ce qu'on appelle mon passage, ce qu'on appelle un run, nous. En gros, vous faites un passage de 45 secondes. En général, il peut y en avoir 2 ou 3. Et comme c'est très technique, vous êtes noté que sur le meilleur.
D'accord.
Donc si jamais vous êtes tombé sur un des passages, vous pouvez vous rattraper.
On peut se rattraper, d'accord.
Exactement. Et ouais, je me souviens qu'il y avait un Australien vraiment très fort qui impressionnait tout le monde. Et puis sur la plateforme de la rampe, tout le monde s'imaginait déjà que c'était lui qui allait gagner. Et je pense que personne ne m'avait vu venir dans le sens où j'avais rien réussi jusque-là. Et finalement, mon premier run de finale, en fait, j'ai réussi à passer mes figures... à peu près correctement. Je m'étais dit dans ma tête que j'allais faire quelque chose de un peu plus basique que ce que j'avais prévu parce qu'il fallait que je sécurise, j'étais pas en confiance. Et comme c'est passé, je me suis senti vraiment soulagé et sans pression pour le deuxième passage et j'ai pu faire vraiment ce que je voulais.
Et ça a marché.
Ouais. Et à 0,5 points, je suis passé devant l'Australien et donc j'étais qualifié comme champion du monde amateur cette année-là, ce qui me permettait ensuite de rentrer sur le circuit pro.
Génial. Alors, mais quelles sont les qualités qu'il faut pour ça ? Parce que vous arrivez à rien et puis le jour J, ça marche. C'est quoi l'idée ?
Bah, il faut croire que c'est un peu mon karma parce que je vous parlais de ma première compétition que j'ai gagnée avec le bras dans le plâtre. Les championnats du monde, c'est pareil, j'avais de gros soucis de genoux. 2 semaines avant, je marchais pas. C'est mon kiné qui m'a dit, après tout plein d'examens médicaux, qui m'a dit si, tu vas y aller, ça va marcher. Enfin bref, c'était, je sais pas, moi quand je suis en haut de la plateforme, je me dis punaise, ça fait toutes ces années que tu t'entraînes comme un dingue. Là, j'essaie toujours de penser aussi aux gamins que j'étais à 14 ans, comme ils seraient fiers de moi d'être là aujourd'hui encore et de donner le meilleur. Et en général, c'est vrai que. J'arrive assez bien en compétition à être même meilleur qu'à l'entraînement.
Ah ouais.
Je connais des gens dont c'est pour qui c'est exactement l'inverse.
Ça vous stimule en fait la compétition.
Ouais, je pense. c'est un peu l'aboutissement, en fait. On s'entraîne toute l'année tout seul dans son coin, à se faire mal, à se relever, à recommencer, etc. Bon, bah là, c'est le moment où tout ce travail, il doit pouvoir être montré.
Montré,
et,
ouais.
Et
ouais.
Puis,
donc, vous surpassez à ce moment-là.
Ouais, en tout cas, ça me réussit plutôt pas mal. Alors, il y a eu aussi des fois où j'ai perdu mes moyens, où ça n'a pas marché, mais la plupart du temps, non, c'est quand même, je suis quand même meilleur en compète. Ouais.
Et c'est quoi? C'est, on se dit, je lâche tout, je m'en fous, j'y vais, je pense pas à la chute. On est complètement concentré.
Ouais, complètement concentré, 100% dans ce qu'on fait avec, ouais, une espèce de, je sais pas si c'est l'adrénaline du moment, mais sans doute ça doit être ça aussi.
On donne le max, quoi.
Ouais, on donne le max. Et puis, c'est des années d'entraînement, des dizaines de blessures. Donc, c'est le moment, quoi.
Ouais.
C'est maintenant qu'il faut tout donner. Ouais.
C'est génial. Bon, et alors, vous devenez donc qualifié pour les championnats du monde.
Ouais. Et puis après, j'ai continué.
Et donc là, vous rencontrez, je présume, des gens que vous. Que vous suivez, que vous adorez peut-être
En parallèle, ouais, j'ai aussi commencé à faire des démonstrations. Il y avait pas mal de démonstrations à l'époque. Donc en fait, comme c'est une discipline assez impressionnante, même en dehors de la compétition, on faisait des démos pour des festivals de musique, pour des événements, etc. J'ai fait même le Stade de France, un concert Urban Peace, là où il y avait 40 000 personnes dans le Stade de France. Donc vraiment, j'ai commencé à tourner pas mal. Et ça, pour moi...
Et là, vous gagnez de l'argent grâce à ça?
Ouais, on était payés ouais, pour faire ça. Mais ce qui était génial pour moi, c'est que c'était vraiment l'aboutissement de mon rêve de gosse. Déjà, d'avoir été passionné de cette discipline depuis toujours, bien sûr, c'est un rêve quand tu fais un sport et que tu es à fond dedans de devenir un jour champion du monde. Donc déjà, d'avoir ce titre, même s'il était amateur. Et d'ailleurs, je me souviens que l'autre personne de l'équipe de France, lui, il n'a pas du tout réussi. Donc le soir, quand on est allé dîner au restaurant après la compète, moi, j'étais super heureux, mais je ne pouvais pas exulter trop parce que je ne voulais pas le blesser, lui. Donc, j'étais partagé entre ma joie à moi et puis pas, le fait de ne pas le blesser. Et je me suis retrouvé après, à un moment donné, aux toilettes du restaurant. Et là, dans la glace, j'ai explosé. C'est bon, je l'ai. Je ne voulais pas le faire devant lui, quoi.
Ah, c'est génial.
Et non, oui, donc je faisais des démos. Et en fait, c'était génial pour moi parce que je me retrouvais sur la plateforme de la rampe avec tous les gens que j'adulais, qui étaient mes idoles et que j'avais en poster dans ma chambre, quoi.
Bah oui.
Donc, et quand tu commences à rider, que tu fais des figures un peu techniques et tout, et puis que le gars que t'adules depuis des années, il dit « Waouh, génial, trop technique ça, ou machin », enfin, moi, c'est bon, j'avais accompli mon rêve de gamin, quoi. Et je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre ça un jour, d'avoir la chance d'accomplir ses rêves. Vraiment, c'est trop chouette. Ça aide à se construire aussi. Et après, moi, c'était mon moyen. Chacun trouve le sien. Mais je pense que ça aide aussi à être ensuite à peu près bien dans ses baskets. Et j'ai toujours dit que pour moi, la première responsabilité d'être humain, c'est d'essayer d'être heureux. Parce que tu peux pas être bien avec les autres si t'es pas déjà bien avec toi-même. C'est très difficile, faut se le dire, quoi. Donc moi,
mais c'est beaucoup de courage pour quand même aller à l'entraînement tout le temps. Parce que vous faisiez des études par ailleurs?
Ouais, j'ai fait un master en droit des affaires et après j'ai fait l'école de management. Donc oui, c'était en complément des études et même encore aujourd'hui, j'ai un travail à côté, donc je suis tout le temps en train de courir. Donc c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup d'efforts quand même. Mmh. Surtout pour un sport qui est pas reconnu et peu reconnu encore aujourd'hui par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure du skateboard et du BMX. Donc moi, j'ai jamais vraiment vécu de ce sport. Je couvre mes frais, j'ai des sponsors, etc. Mais c'est pas... Donc oui, c'est fatigant. Après... Le premier moteur de tout ça, c'est la passion. Mmh. Moi, vraiment, je m'éclate dans ce que je fais. Ça m'a permis de vivre des aventures incroyables partout dans le monde. J'ai des amis, c'est une petite communauté, donc j'ai des amis partout dans le monde, en Angleterre, partout en Europe, au Japon, aux États-Unis. Donc c'est aussi, ça m'a apporté aussi une ouverture d'esprit que j'aurais peut-être pas eu si j'avais pas eu ça dans ma vie, quoi.
Votre frère, il a continué ?
Mon frère a continué. On s'est entraîné encore hier ensemble, entre midi et deux. Donc non, on roule ensemble. Mais lui était toujours moins dans une approche compétitive que moi.
Vous étiez stimulé par la compète ?
Ouais, je pense. Je suis un peu plus âgé. On en a fait beaucoup ensemble au début. Et puis après, lui, c'était moins son truc. Et puis peut-être qu'il avait moins envie d'être en concurrence avec moi aussi. Je peux comprendre. Mais en tout cas, il a toujours été un soutien incroyable. Et le fait de s'entraîner ensemble en termes de motivation et en termes d'échange technique, parce qu'on a beau pas avoir d'entraîneur, on se corrige tout le temps, tous les deux. Sur telle figure, il me dit « Non, regarde, t'es parti trop tôt, là, t'as tourné comme ça, mets ton pied comme ça, etc. » Et je fais pareil pour lui, quoi.
Donc après ces championnats du monde aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe ?
Après, j'ai eu la chance de faire le circuit pro. J'en ai pas fait tant que ça, mais il me semble que c'était en 2007, j'ai fait le championnat du monde professionnel. Là, j'ai fait 9e à l'époque. C'est une période de ma vie où, entre les études et puis ma copine de l'époque et tout, j'ai un peu moins pratiqué. Alors, à l'entraînement, toujours autant, mais sur les compétitions, un peu moins.
Vos parents étaient toujours derrière vous, motivants, d'accord pour tout ça?
Ouais, alors en plus, ils nous ont prêté je sais pas combien de fois la voiture pour qu'on puisse aller dans les skateparks en Allemagne, en Suisse, en machin. Ma mère, elle nous emmenait sur les compétitions tout petit, enfin quand on était beaucoup plus jeune. Non, on a vraiment eu beaucoup de soutien. Et sans être trop je sais pas si ça se dit pressurisant, enfin ils nous mettaient pas trop de pression non plus. J'ai connu cet excès là aussi, depuis tout ce temps-là, j'ai vu quand même pas mal de jeunes passer dans le sport, et certains qui, dont les parents vivaient le rêve par procuration à travers leur gamin. Et franchement, c'est lourd. Pas bon parce que, bah, à un moment donné, le gamin, il fait pas ça pour lui. Alors, quel est le juste milieu entre commencer suffisamment tôt pour être vraiment au meilleur niveau possible un jour et en même temps donner la chance à son gamin de faire vraiment ce qu'il veut ? C'est un arbitrage que chacun doit trouver qui est pas évident. Mais j'en ai connu quand même pas mal qui, malgré le fait que ce soit un sport fun et jeune, et c'est pour ça que ça nous a attirés, c'était tellement le truc de leurs parents que quand ils sont devenus un peu plus grands, ils ont abandonné, quoi.
Mais 15 ans, quand vous avez commencé, c'était âgé ou c'était... Parce que bon, souvent, les grands champions, ils ont commencé très très jeunes dans leur discipline.
Bah moi, la discipline, elle n'existait pas avant.
Ouais, c'est ça.
Donc j'ai commencé en même temps que c'est arrivé. Et puis, il s'avère qu'à l'époque, c'était une mode. C'est redescendu, c'est remonté. Enfin, moi, je me suis jamais
pris... Vous rencontriez dans les championnats des gens plus jeunes ou...
Ouais, ouais. Oui, non, c'est sûr. Moi, mais comme c'est des disciplines vraiment très techniques, ça a beau être physique, c'est sûr, mais on peut compenser avec la technique. Et moi, aujourd'hui, mes 25 ans d'expérience, ça pèse en compétition, c'est sûr. Quand vous voyez des compétitions de skateboard aujourd'hui, il y a même les JO. Hein,
elle a 13 ans, je crois.
La médaille d'or olympique. Ouais. Et vous avez des gens qui ont 45 ans qui sont encore au top niveau mondial, quoi.
Ouais. C'est pas mal, hein, parce que c'est assez rare quand même.
Non, c'est vraiment riche, c'est pratique pour ça, et je pense que c'est le côté à la fois créatif, à la fois technique, à la fois la recherche d'originalité qui permet cette richesse, et justement le fait qu'il y ait des profils de différents âges qui puissent être encore au meilleur niveau mondial. Même en termes de genre, hein. Moi dans ma discipline en roller, il y a quand même Fabiola Da Silva qui était une athlète de très très haut niveau, maintenant elle est à la retraite sportive, mais comme il n'y avait pas suffisamment de femmes pour faire des compétitions femmes, elle concourait contre les hommes et elle était 5e mondiale.
Ouais. D'accord, c'était mixte alors
mondiaux. Plus maintenant, mais à l'époque, ça l'était.
Ah ouais.
Et contre les meilleurs mondiaux, elle était 5e mondiale. Elle me battait systématiquement en compétition. C'est la première femme au monde à avoir lancé un double salto arrière sur une rampe. Enfin, vraiment, c'est...
Elle est française ?
Non, c'est une brésilienne. Moi, j'ai toujours trouvé ça hallucinant et vraiment un exemple incroyable. Ça prouve que même au niveau des genres, c'est parfois peut-être juste des barrières qu'on se met dans la tête. Et finalement, quand on n'a pas de comparaison et qu'on fait fi de tous les standards, peut-être qu'on peut se dépasser encore beaucoup plus. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert dans cette discipline-là, c'est que, je vais vous citer cette petite anecdote parce qu'elle me semble parlante, mais à l'époque, le niveau évoluait très très vite. Et on n'avait pas, comme aujourd'hui, des vidéos tous les jours sur Internet, on attendait la VHS qui arrivait tous les deux mois, etc. Et j'étais en train de m'entraîner à faire une figure qu'on appelle un fishbrain, bon bref, me caler avec mes rollers pour faire ce qu'on appelle un slide, glisser sur le haut de la rampe, etc. J'y arrivais pas. Et on reçoit une nouvelle vidéo, et en fait, entre la vidéo qu'on avait eue avant et celle-là, les gars, ils avaient pris un niveau exponentiel. Cette figure, le fishbrain, là, il était difficile à faire. Dans la vidéo d'avant, il y avait peut-être un ou deux gars qui le faisaient. Dans la vidéo d'après, ils le faisaient tous. Et puis, il y en avait qui faisaient bien pire que ça. Et donc, moi, le lendemain à l'entraînement, bizarrement, sans m'être entraîné plus, j'ai réussi cette figure à chaque fois. Ce qui prouve que simplement, parce qu'à l'époque, dans ma tête, je me disais le meilleur niveau mondial est là, moi, je suis là. La fois d'après, le meilleur niveau mondial, il est là, il faut que je sois là. Je me suis débloqué. Mais ça, en fait, c'est juste une belle leçon pour montrer qu'on passe notre temps à se mettre des barrières complètement pour tout. Et que je pense que les très très grands champions qui sont, si on prend Sébastien Loeb en Alsace, ou Schumacher, ou Federer, Nadal, c'est des gens qui ne se comparent pas. Systématiquement, on va tous se dire à un moment donné, non, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas possible, ça c'est... Eux non, je pense qu'ils ont... Les grands champions, c'est ça qui va faire la différence. C'est le fait qu'ils se mettent pas de standard par rapport aux autres. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant, et parce que ça m'a prouvé après, par la suite, que oui, en permanence, on se met, même sans s'en rendre compte, tout le temps des barrières. Et même, je veux dire, les figures que je fais aujourd'hui, les meilleurs mondiaux, on faisait pas un tiers à l'époque. Moi, je suis capable de les faire maintenant, pourquoi
ça
je pouvais pas les faire à l'époque.
Ouais.
Il y avait peut-être un peu plus de travail aussi, mais ça prouve bien que psychologiquement, et je pense qu'on en est encore là aujourd'hui.
C'est pas le matériel aussi qui change et qui évolue.
Non, c'est beaucoup aussi l'évolution de la discipline, quoi. C'est qu'à l'époque, un double salto, c'était impensable. Les gens faisaient déjà difficilement des saltos tout simples. Aujourd'hui, le double salto, c'est devenu la norme.
Il faut toujours qu'il y en ait un qui fasse le double salto et on se dit, ça y est, c'est possible, quoi.
Ouais, mais après, tout le monde a suivi. Donc, ça veut dire que tout le monde était capable de le faire. Alors, il y a l'entraînement, il faut le faire pas n'importe comment. Enfin, il y a aussi des risques de blessures et tout, mais...
Et vous entraînez jamais sur des matelas ou sur un trampoline ou j'en sais rien pour faire des sauts?
Alors, ça existe pas trop en Europe. Ça existe pour la partie street, donc des tremplins avec un matelas pour réceptionner sur les matelas, ça existe. Mais moi, dans ma discipline, la rampe, comme en fait c'est une rampe qui est verticale et quand on décolle, on est parallèle au sol et on retombe parallèle au sol, de faire du tremplin ou du trampoline, ça aide pas parce qu'on retombe pas dans le bon sens. Ouais. Et c'est d'ailleurs une des difficultés de la rampe, c'est que instinctivement, votre cerveau, il vous dit, retombe avec les pieds en dessous, la tête au-dessus.
Ouais.
Et moi, non, il faut que je retombe parallèle au sol. Donc il y a aussi une lutte permanente par rapport à cet instinct de se dire non, il faut que je retombe comme ça. Donc la décomposition des figures et le travail du corps dans l'espace, il est complètement différent. Donc c'est pas évident. Il y a quelques rampes aux États-Unis où ils ont effectivement des bacs à mousse et des choses comme ça. J'y suis allé quelques fois, mais avec le travail, j'ai pas non plus la possibilité d'y aller aussi souvent que je voudrais.
Oui, parce que en fait, quand vous testez une figure, forcément vous allez tomber.
Oui, et même quand on l'a réussi. Moi, à chaque entraînement, si je tombe pas une trentaine de fois, c'est que j'étais fatigué et que j'ai fait que des trucs sécures pour pas me faire mal, quoi.
Ouais.
Donc non, oui, on tombe tout le temps. La question, effectivement, quand on démarre une nouvelle figure, c'est d'arriver à la décomposer pour pouvoir la lancer progressivement sans se faire mal. Donc si je veux apprendre un espèce de salto, est-ce que je vais me lancer d'abord sur le dos et rouler sur la rampe, ensuite prendre un peu plus de vitesse, essayer de mettre la main, tomber sur les genoux, etc. Et on décompose. Il y a plein d'étapes. Déjà, d'oser lancer. Ensuite, une fois qu'on a lancé, d'être assez régulier pour que le corps commence à comprendre le mouvement et que ce soit toujours le même. Et après, il y a une étape où on va commencer à voir l'atterrissage. C'est-à-dire qu'on lance la figure et on est suffisamment assez bien dans l'air pour pouvoir voir le moment où on doit atterrir et mettre les pieds.
Donc, il faut tout le temps imaginer en fait ce qui va se passer.
Pour ma part, ce n'est pas intellectualisé. C'est vraiment le langage du corps. C'est le cerveau reptilien. Quand je suis sur la rampe, je lance cette figure, mon corps sait ce qu'il doit faire.
D'accord.
Ça a été tellement répété.
Oui, c'est ça.
Après,
ça devient un instinct en fait.
Il y a de la correction en fonction de...
Voilà, du moment.
Comme ça, ouais. Là, que c'est comme ça, visuellement, je vois ça, il faut que je corrige là ou que je me rattrape parce que je sais que si je suis sur les jambes, je vais me faire mal.
Ouais.
Donc, il y a ça. Mais sinon, non, c'est vraiment le langage du corps. Et c'est, je pense que c'est aussi ça, la partie un peu drogue. Là, j'entendais une émission où il disait que certains sports extrêmes, dans l'engagement mental que ça suppose, c'est pratiquement le même état qu'un état méditatif.
Ah ouais.
Donc, je pense que... Ouais, il y a quelque chose de ça, quoi.
Oui, parce qu'à un moment donné, il faut même oublier que la peur existe. Je veux dire, faire abstraction de ce qui pourrait se passer.
Non, c'est sûr, ouais. Et après, c'est une autre question aussi, c'est de comment on arrive à dépasser sa peur.
Ouais.
Donc ça, c'est un travail très personnel que chacun doit avoir. Moi, je le vois bien, par exemple, souvent au skatepark, des gamins qui veulent essayer de descendre cette rampe pour la première fois. Elle fait 4,50 m de haut, elle est verticale. Donc, ils se sont entraînés déjà à bien rouler sur le plat. Parce que déjà, avant de commencer à faire ça, que ce soit en skateboard, BMX, trottinette ou roller, il faut déjà être très à l'aise sur le plat. C'est la base. Après, on commence à apprendre un peu les courbes, etc. Et puis après, ils montent en haut de la rampe. Et puis, bon, ils essayent sur les petites rampes d'abord.
Déjà, rien que d'être en haut, ça doit être impressionnant.
Il y a plein de gens qui ont le vertige. Ouais.
Ouais.
Ouais, et puis comme c'est vertical, ça fait peur. Et donc, du coup, ouais, j'essaie à chaque fois quand même de coacher ces gamins parce qu'on s'entraide. C'est comme ça qu'on fonctionne. Hein, on s'entraide tous entre nous, là. Ben, il y a plusieurs façons de faire. Il y en a certains, il faut les encourager, taper dans les mains, mettre de la musique forte.
Qu'ils oublient,
machin,
en fait.
Et puis, allez, vas-y. Et puis là, ça marche. D'autres, si on fait ça, ça les bloque. Il faut qu'ils soient dans leur bulle, qu'ils se concentrent, etc. D'autres, ils vont aller s'entraîner sur la plus petite. Je leur dis, fais 4 fois la petite. Là, tu fais 4 fois la petite d'affilée. Tu remontes sur la rampe, tu regardes pas en bas, tu pars tout de suite. On va essayer de travailler comme ça des façons de fonctionner. Moi, c'est vrai dans la rampe, c'est vrai pour les streeters aussi. Souvent, ce qui marche bien quand on veut lancer un truc très difficile, c'est de faire déjà une figure qu'on maîtrise avant pour se mettre dans l'état d'esprit de réussite. Donc si je fais un gros 5-4 avant que je le plaque, je suis bien et tout, je sais qu'en face, je vais avoir l'énergie et la confiance qu'il faut pour lancer la suivante.
Mais la peur, vous avez jamais eu peur ?
Si, tout le temps. Et on essaie de la combattre, en fait. Après, il peut y avoir des moments où il y a des peurs paralysantes, et ça, en général, ça fait mal. Non, ça m'est arrivé de perdre une figure la dernière fois, bêtement, en voulant montrer à un gamin, je l'ai décomposé comme je l'avais apprise au début, puis je sais pas, ça a fait un truc dans ma tête et...
Déconcentré, peut-être.
Non, mais c'est, je l'ai perdu, j'y arrivais plus.
Ouais.
Après, j'avais peur de la faire. Et donc, il m'a fallu 3 mois de boulot pour retrouver.
Ah ouais.
Ouais. Parce que le cerveau, c'est comme ça, quoi. Là, aujourd'hui, je la refais, je me pose plus de questions.
Mais comment on a peur tout le temps et on continue ?
C'est une sacrée satisfaction de personnel d'arriver à dépasser sa peur.
Donc, vous n'êtes pas inconscient ?
Non, c'est beaucoup de boulot. Après.
Parce qu'on pourrait penser que tous ces gens qui font ça, ils sont complètement fous, quoi.
Dans certaines disciplines, il peut y en avoir. Par exemple, en street, vous pouvez pas être très très bon et puis à un moment donné, vous dire voilà, je me fais tirer par une voiture et je vais sauter ces 20 marches là. Avec un peu de chance, ça passe. Et puis si c'est en vidéo, j'aurai mon heure de gloire.
Ouais, c'est ça. Voilà. Donc là, c'est fou.
Le gars, il s'est entraîné un peu, il fait son crise de folie et ça passe. Mais bon, vous pouvez pas faire ça 50 fois parce que, enfin. Ouais, c'est un peu le truc de Lord Dali, quoi. Est-ce que je suis... Ouais. Enfin, à un moment donné, ça va finir par casser. Après, il y en a qui fonctionnent vraiment comme ça. En half-pipe, ça peut pas fonctionner parce que la discipline du half-pipe, par rapport à ce que je vous disais, de la façon dont il faut retomber, le travail qu'il y a derrière les figures et tout, ça demande tellement de temps et d'entraînement que c'est très compliqué d'arriver et dire « Ouais, je vais lancer un truc que j'ai jamais fait et puis ça va passer. » C'est pas possible. Moi, c'est...
C'est calculé, quoi.
Une nouvelle figure, c'est 1 an et demi, 2 ans d'entraînement.
Ah oui.
Déjà comprendre comment elle fonctionne, enfin la décomposer, comprendre comment elle fonctionne, la réussir. Après, on travaille sur le taux de réussite. Est-ce que j'arrive 1 fois sur 10? Est-ce que j'arrive 5 fois sur 10? Est-ce que j'arrive 7 fois sur 10? Et puis après, la difficulté aussi, c'est comme on fait des passages de 45 secondes dans lesquels il faut qu'on enchaîne toutes les figures. C'est non seulement d'arriver la figure, mais de l'arriver suffisamment bien pour pas perdre de vitesse et pouvoir enchaîner avec les suivantes.
Mais c'est très technique. Hein. Quand vous ridez, on dit ridez?
Ouais, tout à fait.
Quand vous ridez, vous écoutez de la musique?
Ouais, ça dépend des fois, mais en ce moment, un petit peu.
Ça déconcentre pas?
C'est à double tranchant. D'un côté, ça motive. Et d'un autre côté, ouais, le fait de ne pas avoir les repères auditifs sur certaines figures, ça peut être handicapant.
D'entendre ce qui se passe.
Ouais, la conscience de l'espace autour, les oreilles, ça peut aider parfois.
Ah ouais, ouais.
Mais quand même, la majeure partie du temps, on écoute de la musique, ouais.
Vous écoutez quoi en ce moment?
Pendant longtemps, c'était des trucs énervés. Maintenant, c'est plus des trucs calmes, du reggae, des choses comme ça. Et ça s'appelle l'entourloupe, tour de force. C'est des DJ français qui font des featuring avec des chanteurs
Alors, on revient sur les championnats. Donc, vous passez un petit moment professionnel, c'est
en
ça?
En fait, j'étais considéré comme professionnel sur le circuit, ce qui fait que vous êtes payé si vous finissez dans les 10 premiers.
Ouais.
Mais ce n'est pas professionnel dans le sens où forcément on en vit, quoi.
Oui, d'accord.
Je pense que ça dépend des années. Ceux qui sont venus un peu avant moi dans le sport, Ty Chris, pour le citer, par exemple, qui est quand même devenu aussi une personnalité médiatique.
Lui, il faisait la même chose que vous, du roller en ligne.
C'est d'ailleurs lui qui a inventé une grosse partie des figures qu'on fait aujourd'hui. C'était vraiment le créateur de beaucoup de figures. Et les gens de cette génération-là, ils ont, à un moment donné, gagné quand même beaucoup d'argent avec ce sport.
Ouais.
Moi, après, c'est retombé. La vague a plutôt basculé sur le skateboard, le BMX, etc. Donc, ce qui fait que j'ai jamais vraiment vécu de ce sport. Encore une fois, je couvre mes frais, j'ai fait des démos, des choses comme ça. J'ai toujours eu un travail à côté.
C'est combien de compétitions par an?
5-6 camps maximum par an.
D'accord. Donc finalement, votre plus haut niveau?
C'était les championnats du monde. C'est les premiers championnats du monde officiels qui ont été organisés en 2019 en Espagne, sous l'égide de la Fédération Internationale. 2 semaines avant, j'arrivais pas à marcher. J'ai fait le NL Contest, qui est la compétition qu'on organise en mai chaque année. Là, ça a fonctionné. J'avais récupéré de ma blessure. Je sais pas, j'ai fait une rechute. J'étais incapable de plier ma jambe. J'étais obligé de ramper pour aller aux toilettes la nuit. Enfin, c'était vraiment très compliqué. Et mon kiné m'a dit, malgré tous les examens, il savait pas trop ce que j'avais et tout. Mon kiné, qui est aussi préparateur physique et mental, avec qui je m'entends bien depuis toutes ces années, qui m'a quand même aidé, même si c'était pas dans un cadre officiel, il m'a beaucoup aidé. Il me dit non, t'inquiète, on va trouver, on va te réparer, tu vas y aller. Moi, dans ma tête, je m'étais dit, vu l'état physique dans lequel je suis, en plus, je me suis pas entraîné,
bah
c'est
oui,
quand même les championnats du monde,
voilà.
Je marche pas. Et donc, je pensais qu'au pire des cas, si je pouvais y aller, c'était pour accompagner mon coéquipier de l'équipe de France et le soutenir, quoi. Jamais de la vie, j'aurais imaginé pouvoir participer. Finalement, on a trouvé un peu mieux ce que c'était. C'était une grosse inflammation du ligament. Et peut-être une semaine avant la compétition officielle, j'ai pu reprendre l'entraînement. Donc, c'était super chaud. Et quand je suis arrivé là-bas, j'étais tellement content d'être sur la plateforme avec les copains et de
vous
pouvoir
avez
faire
oublié.
Ces premiers championnats du monde officiels.
Donc, c'est les premiers de l'histoire du roller.
Reconnu par la Fédération française, oui. Ça existait déjà en street, mais en halfpipe, c'était...
Parce que Tychris, lui, il faisait pas de championnat
Si, en fait, mais c'était des championnats privés, un peu comme... Enfin, ce qui est le plus connu, ce sont les X Games, par exemple, aux États-Unis. Et en fait, ça fait pas partie de l'égide d'une fédération internationale. Okay. C'est sponsorisé par la chaîne de télé ESPN. C'est des grosses compétitions privées.
Privées,
en fait.
D'accord.
Après, ça a largement valeur de championnat du monde. Et vous avez, d'ailleurs, suite aux JO, dans certaines disciplines de nos sports... Certaines personnes qui considèrent que les JO, c'était pas le meilleur niveau et qu'il vaut mieux gagner telle compétition privée parce que les meilleurs mondiaux sont encore plus forts et sont là. Quoi.
D'accord. Voilà. Et donc, ces championnats du monde en Espagne, c'est quand même les meilleurs forcément de chaque pays qui...
J'étais très content déjà de pouvoir y être et de pouvoir...
Parce que donc vous étiez sélectionné, vous aviez déjà plus de 40 ans.
Ouais. Après, aujourd'hui, dans ma discipline, elle est tellement exigeante qu'on n'est pas non plus très nombreux, quoi. À savoir rider des... En plus, les rampes qu'ils utilisent aujourd'hui sont tellement grosses que... je l'ai vu encore au NL Contest qu'on a organisé cette année. Là, il y a des petits jeunes qui sont venus, qui sont l'avenir de la discipline et qui ont, je pense, clairement, techniquement, plus de figure que moi. Mais il leur manque la puissance, la technique et la hauteur.
Ouais. Parce qu'aujourd'hui, ça fait combien de mètres, du coup ?
Ça fait 4,50 m. C'est une des plus grosses d'Europe qu'on a à Strasbourg, là.
Alors, justement, revenons... Donc, alors, on termine sur le championnat du monde en Espagne. Mmh. Donc, vous y allez... avec finalement assez peu d'entraînement dans les jambes.
Mmh. Ouais, puis j'ai réussi à faire mes passages. La rampe était aussi assez grosse, ce qui, moi, m'avantage, parce que ça ressemble à la rampe sur laquelle je m'entraîne. Je suis moins technique que d'autres. Il y en a beaucoup qui font des rotations beaucoup plus complexes que les miennes, mais moi, j'ai beaucoup d'amplitude, je vais plus haut. J'ai un style que, en fonction des juges, certains apprécient quand même bien. Donc, ça fait la différence. Et en fait, je suis assez technique aussi sur... Il y a toute une partie des figures qui se déroule sur le sommet de la rampe et qui est glissé avec les rollers sur la barre qui est au sommet de la rampe, comme si on glissait sur une main courante ou un truc comme ça. On appelle ça les slides. Et cette partie-là, comme je faisais quand même pas mal de street aussi, je suis un peu plus technique que beaucoup d'autres ramp riders. Donc ça complète un peu. Et puis voilà, aujourd'hui, la stratégie...
Donc un beau ride, en fait.
Ouais, c'est ça. Après, comme dans tous les sports, et peut-être encore plus dans celui-là, dans le sens où il est libre, connaître ses atouts et capitaliser dessus. C'est toujours plus simple de développer les choses dans lesquelles on est déjà fort que d'essayer de s'améliorer dans les choses où on est moins bon.
Ouais. Et donc, ça a marché ?
Ça a marché, ouais. Et j'ai fait deuxième. Contre Takeshi Yasutoko, qui est multi-champion du monde et qui est un athlète dans les sports extrêmes que n'importe qui, dans tous les sports extrêmes, adule parce que c'est un extraterrestre. Ouais.
Et il est japonais ?
C'est un japonais et personne que lui n'est jamais allé plus haut dans une rampe. C'est impressionnant.
Ah ouais ?
Et les gens comprennent
même pas. Donc faire deuxième à ses côtés, c'est magnifique.
Ouais, ouais. Non, vraiment, c'est vraiment chouette. Et puis, pour le dépasser lui, c'est forcément quand même mon objectif. Mais je sais que ce sera très difficile parce qu'il est vraiment... c'est un
il a quel âge ?
Il doit avoir 34, 35.
Alors, du coup, vous avez créé aussi votre propre compétition, le NL Contest, à Strasbourg.
Tout à fait. En fait, nous, on a toujours évolué en dehors du cadre et ça ne nous a jamais intéressé. Je veux dire, les entraînements le mardi soir avec un entraîneur, machin, enfin, c'était pas notre culture.
On s'entraîne quand on veut.
Quand on veut, tout le temps, liberté, on s'entraide entre nous et on progresse ensemble. C'est un sport individuel, mais qui se pratique en groupe. En fait, vous avez besoin de l'émulation des autres.
C'est même pas en équipe, c'est en groupe.
En groupe, ouais. On utilise l'émulation des autres pour se dépasser, on se corrige entre nous, on se lance des challenges. On fait parfois des petites compétitions entre nous, c'est-à-dire on a des jeux qui s'appellent un blade, c'est-à-dire qu'il y en a un qui lance une figure et l'autre il doit essayer, et tous les autres qui font le jeu doivent essayer de faire la même. Et c'est difficile parce que comme chacun a ses figures propres et que c'est pas imposé, donc ça met tout le monde un peu... en dehors de sa zone de confort, et puis après on enchaîne et c'est au suivant de lancer, et puis voilà, donc on s'amuse comme ça. Mais on s'est bien rendu compte à un moment donné qu'on avait besoin de rentrer dans un cadre si on voulait développer la pratique et être reconnu. Et donc on a créé une association pour ça en 2002 qui s'appelle Nouvelle Ligne, d'où le NL Contest en fait, c'est juste les premières lettres. Mais comme on est dans l'association des anciens pro-riders ou des pro-riders, on a quand même un réseau de pro-riders du monde entier, donc même sur des petits événements, on arrivait à faire venir une partie du meilleur niveau mondial, et ça s'est développé d'année en année. On a commencé avec quelques tonnelles, quelques bières et les copains, et franchement, si on m'avait dit que 15 ans plus tard...
40 000 spectateurs.
On accueillerait 40 000 spectateurs. Ouais, pour les 15 ans, on était avec Julien, qui est le directeur du festival. Je me souviens, on était debout sur un des conteneurs, et puis on a vu la foule. En plus, c'est un festival hyper familial. Il y a des jeunes, des moins jeunes, des familles. C'est des sports très impressionnants, donc les gens en prennent plein la vue. Nous, ça nous a toujours tenu à cœur aussi que les gens puissent être spectateurs, donc, mais aussi acteurs. Donc, on peut essayer la slackline, on peut essayer le skate. Enfin, c'est participatif. Et vraiment, ça nous correspond. Et on a toujours fait ça dans une logique vraiment de passionné. Et de voir tout ce monde-là et tout, 15 ans après, vraiment, on s'est regardé, on avait presque la larme à l'œil. On n'y croyait pas, quoi. Ouais, parce que nous, on est dans notre truc. On n'a jamais rien fait d'autre que faire notre truc. Après, on n'a pas été trop mauvais. Je pense que effectivement, même si ça a été très difficile, on est des gens organisés. On a eu la chance de faire des études aussi. On n'était pas que dans ce sport-là, à être décalé complètement de la réalité. Donc voilà, tout ça mis tout ensemble, plus le fait que effectivement nos pratiques elles plaisent, et ben nous voilà 20 ans plus tard avec un très beau festival quoi. On est le deuxième plus gros festival en Europe. Contrairement aux autres compétitions qui existent, qui sont très axées sport, nous on est aussi aujourd'hui un festival
d'ambiance,
de cultures urbaines. Donc il y a des concerts, il y a du graffiti, il y a du breakdance, des compétitions de DJing. Enfin, on a greffé énormément d'animations qui sont en lien avec avec nos sports et nos cultures. Et en fait, on est un amalgame de toutes ces choses et c'est toutes ces synergies ensemble qui font le succès du festival.
Ouais, ouais.
Parce que finalement, on a toujours partagé tout ça. Je veux dire, sur les skateparks, il y a de la musique, il y a des graffeurs. Parfois, les danseurs, ils s'entraînent dans des salles à côté. Les mecs qui font des parcours, ils viennent aussi au skatepark sauter entre les modules et tout. Donc nous, on a juste agrégé tout ça parce que finalement, ça nous semblait logique.
Vous pensez que le roller en ligne va aller au JO ?
Alors, je me bats pour ça. C'est une vraie polémique parce qu'il y a des gens dans le sport qui n'ont pas du tout envie que le sport rentre dans le cadre parce que ça va le dénaturer.
Ah oui, d'accord.
Et ça se comprend. Aujourd'hui, vous avez quand même dans ces sports-là des gens qui sont professionnels, qui gagnent très bien leur vie et qui sont hyper reconnus alors qu'ils n'ont jamais fait une compétition. Juste parce qu'ils
font des vidéos. Fédéral, vous voulez dire ?
Même, pas du tout.
Ah, jamais aucune compétition.
Ils sont juste dans la rue à faire des trucs de dingue.
Ah.
Ils sont des génies dans
la façon. Ça, c'est l'effet réseaux sociaux, non ? C'est un peu des influenceurs dans ce monde-là.
Avec les vidéos avant, mais c'est amplifié par les réseaux sociaux, ouais. Et donc ces gens-là, eux, le truc d'une compète, d'un jugement, ça leur semble ça leur semble une aberration.
Oui, ça va pas avec le style, hein.
Non, c'est vraiment en contre.
On se juge entre nous, mais on veut pas qu'il y ait.
Et même le jugement, en fait, certains considèrent que ces pratiques, elles sont plus artistiques.
Ah oui.
Dans le sens où la figure, de toute façon, ça va être un moment T où tu as fait ça à tel endroit et c'est pratiquement pas refaisable. C'est vraiment, t'as créé ton truc sur le moment. Et donc, ils considèrent que juger ça, c'est une aberration. Et c'est vrai, moi, ça m'est déjà arrivé de juger des compétitions et puis je suis dans le truc depuis des années à quand même assez haut niveau. C'est très difficile. Comment vous voulez départir quelqu'un qui est très technique, mais peut-être qui n'a pas un très bon style ? De quelqu'un qui est beaucoup moins technique, mais qui va prendre de gros risques et qui fait un truc qui a travaillé le style de sa figure.
En fait, c'est l'émotion du moment qu'on juge.
Non, les juges, normalement, ils ont des critères effectivement, d'esthétique, de technicité, de prise de risque et d'amplitude. Mais voilà, je peux comprendre que certaines personnes soient contre l'arrivée de ces pratiques au JO parce qu'ils pensent que ça va dénaturer la discipline. Moi, je ne suis pas cet avis. Je pense que ça n'empêchera pas ceux qui n'ont pas envie de rentrer dans le cadre de continuer à s'éclater dans la rue, à faire des trucs de dingue. Et ça, à contrario, ceux qui ont envie de rentrer dans le schéma olympique, ça les aidera à peut-être faire une carrière, à pousser le sport toujours plus loin. Et puis, c'est quand même chouette si demain, on peut avoir des vrais professionnels et pas seulement des gens qui risquent leur vie, leur santé pour finalement rien pouvoir en faire parce que... On ne sait pas ce qu'on peut faire après ce genre de sport, mais potentiellement on se fait mal. Si toute ta vie elle est cassée à cause de ça, c'est quand même dommage, quoi.
Et c'est pas encore un sport démo au JO, hein. En 2024, ce sera pas en démo.
Non, mais ça c'est ce que j'aimerais pousser aujourd'hui. Ce qui est compliqué aussi, c'est que pour qu'un sport rentre, il faut en sortir un autre.
Ah, d'accord.
Donc il y a quand même des enjeux forts. Après, aujourd'hui, ils sont quand même à une étape un petit peu charnière, puisque justement, ils ont besoin d'intéresser cette cible jeune, et donc ils sont en train d'intégrer les sports urbains. Là, il y aura même la danse à Paris.
La street dance.
Ouais. Mais oui, je pense que pour les JO à Los Angeles, ça va. Les cartes vont être battues, je pense.
Surtout aux États-Unis, qui est le pays de cœur, finalement.
Exactement.
De ce sport.
Là où ces sports sont nés, ouais.
Alors, qu'est-ce qu'on donnerait comme conseil à un jeune aujourd'hui qui a envie de suivre votre voie et qui a envie de chausser les rollers?
Ben déjà, bienvenue, parce que vraiment, c'est un univers chouette. Ça peut faire peur peut-être à certains parents, parce qu'il y a aussi un côté... je prends des risques, donc est-ce que quelque part, j'ai pas quelque chose à prouver, etc. C'est des sports où les gens poussent parfois, pour certains, les limites aussi dans d'autres domaines, parce qu'ils sont dans ces sports, parce que ça leur permet aussi de canaliser cette énergie. Mais il n'y a pas que ça, et c'est un sport très complet, c'est des beaux échanges avec des personnes hyper... Enfin, de profils très variés, parce que il y a toutes les classes sociales, hein. Je veux dire, bon, une paire de rollers, si vous voulez un truc vraiment top aujourd'hui, à partir de 150 euros, vous trouvez. Et puis après, les skateparks, la rue, c'est gratuit.
C'est gratuit, ouais.
Donc ça, c'est déjà le premier
c'est
truc.
Vrai.
Par contre, il faut effectivement quand même accepter potentiellement de se faire mal. Ça reste des pratiques à risque, donc il faut s'entraîner pour ça. Et ça fait partie de la pratique, donc il faut l'assumer. Ça, c'est le seul truc négatif, entre guillemets, dont il faut avoir conscience. Et après, tout le reste, c'est que du plaisir. Moi, j'ai toujours essayé de donner le meilleur de moi-même parce que j'aime progresser, en fait. J'aime me dire que je suis meilleur aujourd'hui qu'hier et je serai meilleur demain. Mais le moteur principal, c'est quand même le plaisir, quoi. C'est des sensations qui sont géniales. Donc, ouais, le plaisir, c'est le premier moteur. Et il y a des moments où, en plus, là, je suis papa depuis un an et demi, ma petite. Donc, forcément...
Elle va faire du roller ?
C'est une grande question. Je sais pas si j'ai envie de la pousser.
Moi, ah ouais,
vraiment, je suis allé dans ce sport parce que c'était un sport qui me correspondait. Et mon père nous a fait découvrir beaucoup de sports et je le remercie pour ça. Mais on a choisi aussi d'aller dans un sport où il n'était pas, parce que je pense qu'on voulait faire notre truc.
Ah oui.
On avait besoin de sortir du cadre à un moment et de marquer notre différence.
Et alors, en dehors du skate, vous travaillez ?
Oui. Je suis conseiller en transmission d'entreprise à la Chambre de métiers d'Alsace. Donc, j'aide les artisans qui veulent changer de vie ou qui arrivent à la retraite à vendre leur entreprise.
D'accord. Et votre mental de sportif, votre hygiène de vie, j'imagine qu'il y en a une.
Ouais, alors moi dans ma discipline, oui, parce qu'elle est physiquement très exigeante. Mais après, il y a les gens dont je vous parlais tout à l'heure qui sont plutôt dans la rue à faire des trucs de fou et tout. C'est aussi des gens qui aiment faire la fête, peut-être un peu trop parfois, quoi. Ça fait partie de cette mentalité.
Enfin, ils ne sont pas champions du monde non plus.
Ouais, mais ils font des trucs que personne d'autre ne font. Hein.
C'est vrai.
Et en termes d'engagement physique et mental, c'est des trucs de dingue. Et ça ne les empêche pas de fumer et de parfois boire en soirée, parce que c'est côté un peu trasheur.
C'est le trip, quoi.
Ouais. Et c'est des gens qui ont besoin de pousser les limites. Donc oui, non, mais sinon, oui, pour ma part, je cours, je m'entraîne, je fais attention quand même.
Et donc, alors, ça vous aide, ce mental, pour le professionnellement parlant ?
Moi, je pense... Moi, mon accompagnement dans la transmission d'entreprise, ça suppose quand même de voir beaucoup de facettes. Parce que quelqu'un qui veut vendre sa boîte, il y a avant tout le côté personnel, il y a beaucoup d'affects.
Émotions, oui.
Mais après, il y a toute la technique financière, l'analyse financière de l'entreprise, l'analyse stratégique du modèle économique, l'analyse juridique. Donc, c'est vraiment des champs très larges. J'arrive quand même assez bien à prendre beaucoup de hauteur sur les choses pour essayer de me concentrer sur les problématiques importantes. Et je pense que ça...
C'est marrant, la hauteur, c'est votre truc au final.
Ouais, peut-être. Mais je sais pas si ça vient de la pratique sportive, mais d'essayer vraiment de se concentrer d'abord sur l'essentiel. Poser la bonne problématique, et après, une fois qu'on sait où on va, c'est beaucoup plus simple ensuite de dérouler les solutions. Mais il faut d'abord se poser les bonnes questions.
Il faut. J'avais entendu dire qu'un champion, ce qui le différencie des autres, c'est qu'il ne supporte pas de perdre. En vous écoutant, j'ai pas ce sentiment.
Non, alors je pense que j'ai l'esprit de compétition, les gens qui m'entourent me le disent, mais j'ai jamais été mauvais perdant et j'ai l'esprit de compétition par rapport à moi-même. C'est-à-dire que je suis très exigeant par rapport à moi et je veux toujours donner le meilleur de moi. Par contre, j'ai aucun problème avec quelqu'un qui est meilleur que moi. Enfin, c'est au contraire, ça va me motiver
à
faire mieux. Mmh. Un run de compétition, c'est des années de boulot. L'important, c'est pas deux jours avant la compète qu'on va travailler un truc. Donc on a son passage en tête, qu'on a organisé, qu'on peut changer en fonction de la rampe et tout, mais grosso modo, on a des idées.
On connaît la rampe avant d'y aller ?
Ouais, il y a toujours des entraînements qui sont prévus avant, d'accord. Il faut pouvoir s'habituer.
On n'est pas surpris par la configuration ?
Non, normalement, non. Et puis, il y a de toute façon une période de training. Le but de l'organisateur, quoi qu'il arrive, il veut quand même un show où
du ça spectacle,
fonctionne.
Ouais.
Si tout le monde tombe et n'arrive pas à rider, c'est pas bon. Donc oui, je prépare tout ça avant. Et après, ça m'est déjà arrivé de gagner des compétitions, mais d'être vraiment pas content. Parce que j'ai gagné, parce que les autres
ont été mauvais.
Et puis
tomber, c'est rédhibitoire ?
vous pouvez remonter, mais remonter, ça prend 15 secondes, minimum 20 secondes sur un run de 45. Et puis en plus, après, vous n'avez plus les jambes
et
vous avez perdu tout l'élan. Donc normalement, c'est, si vous tombez, c'est mort. C'est pour ça qu'il y a plusieurs passages en général.
D'accord.
Mais du coup, voilà, ça m'est arrivé de faire des compétitions où j'ai gagné et franchement, je n'étais pas content de moi. Et à côté de ça, de faire deuxième ou troisième et d'être vraiment content de ce que j'ai fait. Et puis j'accepte aussi le côté subjectif de la notation des juges. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Donc oui, on a toujours envie de gagner, c'est sûr. Et les autres ne sont pas des ennemis, au contraire, c'est des tremplins. Enfin, c'est ma façon de voir les choses. Et puis on a aussi ce côté, on est vraiment très proches. C'est une petite communauté. Les gens qui ne rivent pas à très haut niveau, il n'y en a pas beaucoup.
C'est beau. C'est une belle vision de la vie. J'aime bien.
Okay.
Nicolas, ce podcast s'appelle Le Podium. Donc vous, bah forcément, hein, vous êtes déjà sur le podium. Mais qui aimeriez-vous faire monter avec vous sur votre podium?
Alors, c'est une question difficile. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui ont réussi à être champion du monde plein de fois d'affilée. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est déjà arrivé sur la première marche d'un podium mondial, quelle que soit la discipline, une fois, c'est quand même un exploit incroyable. Et ceux qui arrivent à le faire 5, 6, 7, 8, 9 fois, c'est quelque chose qui m'hallucine. Parce que comment on trouve les ressources?
Ouais, c'est ça, la niaque pour y aller encore.
Ouais, et puis.
Moi, je me dis ça de Federer, je me dis ça de Tiger Woods, je me dis ça de Teddy Riner. Ces gens, ils ont déjà tout gagné.
Ouais.
Comment ils ont encore envie d'y aller?
Qu'est-ce qui fait qu'ils soient autant au-dessus des autres? En tant qu'athlète, c'est vraiment la question que je me pose. C'est, dans tous ces sports-là, il y a des gens hyper doués, il y a des gens qui sont très entraînés, avec un mental de fou. Comment vous arrivez à dominer à ce point aussi longtemps? Ça reste un peu une énigme. Je pense qu'ils ont une façon de penser, comme on l'évoquait tout à l'heure, où ils ne se mettent pas les barrières que la plupart des gens se mettent. Donc ça, oui, ça, moi, ça m'impressionne et ça m'inspire. Pour le côté performance. Après, humainement, c'est des gens que je connais pas. Donc,
oui, voilà. Bien sûr.
Et sinon, j'aime, humainement, sans les connaître non plus, mais j'aime bien les gens qui, dans ce monde de folie, dont je considère que ma discipline fait partie, hein, parce que c'est aussi un truc complètement débile quand on y pense, d'aller se casser des os dans les airs avec une rampe. Enfin, c'est vraiment... moi, ça m'a donné un sens, ça m'a apporté énormément de choses dans ma vie, ça m'a construit. Mais si on remet les choses en perspective, c'est complètement bête, quoi. Mais donc, du coup, j'aime bien aussi les gens qui prennent un peu de recul sur notre monde actuel, que je trouve de plus en plus fou, comme des Pierre Rabhi ou l'interprète du Dalai Lama en France, Mathieu Ricard. J'ai lu quelques-uns de leurs bouquins et tout. C'est des gens qui ont une vraie sagesse dont je pense qu'on manque beaucoup aujourd'hui. On est quand même dans une civilisation qui est... en quête de sens, mais je suis pas sûr qu'on l'ait trouvé dans l'hyperconsommation qu'on nous vend au quotidien, et ça, je pense qu'on est tous en train de se perdre là-dedans, au lieu de se recentrer sur l'essentiel, qui est de penser peut-être à, je sais pas, prendre un peu du recul sur la vie, partager les belles choses qu'on a avec les autres, plutôt que contre les autres, ou à juste consommer, quoi.
Donc c'est eux que vous feriez monter, des grands champions et des gens bienveillants sur la vie.
Bah justement, il y a un des bouquins de Mathieu Ricard où il explique pourquoi il est devenu moine bouddhiste. Il a eu la chance de rencontrer toutes les grandes célébrités de son époque. Et il était frappé à quel point ces gens avaient beau être des génies dans ce qu'ils faisaient, mais humainement, ils n'étaient pas forcément toujours à la hauteur, ou c'était des gens compliqués, torturés, enfin bref. Et il a fait un voyage au Népal un jour, et puis il a eu la chance de rencontrer des grands moines bouddhistes, et il a été frappé à ce moment-là par... non seulement la qualité de ces gens par rapport à ce qu'ils faisaient, mais qui étaient en parallèle avec ce qu'ils étaient vraiment, c'est-à-dire des gens vraiment sages dans la vie, etc. Et c'est pour ça qu'il s'est converti. Et je trouve ça intéressant comme parallèle. Alors, j'en suis loin, et c'est pas du tout un exemple, ni que j'ai suivi, ni que je me sentirais capable de suivre. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant de se dire que... Et puis, les polémiques qu'il y a eu au Festival de Cannes, notamment avec des grands réalisateurs qui ont fait des choses très contestables dans leur vie, posent cette question aussi. Comment on dissocie l'œuvre de la personne? Est-ce que c'est normal de le faire ou pas? Enfin, donc, les gens qui arrivent à être sages dans ce qu'ils font et dans ce qu'ils sont, je trouve que c'est des beaux exemples.
Merci beaucoup, Nicolas. Merci. C'était passionnant et très sage pour votre âge.
Ouais, je sais pas. Il faut bien que je compense la non-sagesse que j'ai dans mon sport.
Mais c'est ça qui est marrant. C'est ça qui est marrant, c'est que c'est quand même un sport qui est complètement, vous l'avez dit mille fois, hors du cadre, assez délirant. Et en même temps, quand je vous écoute, vous êtes quelqu'un d'extrêmement posé, d'extrêmement... Vous me semblez pas du tout fou, vous me semblez pas du tout irresponsable, vous me semblez pas du tout quelqu'un qui prend des risques de façon inconsidérée. C'est assez étonnant.
Mais je pense que ça m'a aidé dans mon équilibre. Cette rage que j'arrive à sortir dans mon sport, cette énergie que j'arrive à sortir dans mon sport, me permet d'être posé sur le reste. Ma compagne me le dit de temps en temps aussi, quand ça fait longtemps que je me suis pas entraîné, je suis assez insupportable. Hein.
C'est vrai?
Ouais. Donc j'ai quand même besoin de sortir ça. Alors d'où ça vient? Pourquoi j'ai jamais fait ma psychanalyse? Mais voilà. Après, ça me permet justement d'avoir cet équilibre et c'est comme ça que je vis heureux aujourd'hui. Et je souhaite à tout le monde de trouver sa voie pour pouvoir avoir cette chance de simplement d'être heureux dans ce qu'on fait, quoi.
C'est chouette. C'est chouette. Une musique pour terminer qui viendrait souligner ce joli mot de la fin.
Alors, j'ai la chance aussi aujourd'hui de faire un peu de musique moi-même. Donc, je fais de la guitare manouche et j'ai eu la chance de rencontrer une partie de la communauté des musiciens manouches de la région qui est très, très riche dans ce domaine-là. Et notamment, Yorgi Leflair, qui est un guitariste incroyable, avec qui j'ai pris aussi quelques cours avec lui et son frère Gigi pour apprendre cette musique qui s'apprend que comme ça parce qu'en fait ils savent même pas lire les notes.
C'est un peu comme votre sport.
Ouais, c'est ça. Hein, c'est hors du cadre aussi.
Vous recherchez des choses comme
c'est
ça.
C'est des génies dans ce qu'ils sont capables de faire alors qu'ils ont aucune formation académique et c'est donc de la musique d'improvisation, donc c'est vous pouvez écouter 100 fois le même morceau, ce sera jamais le même.
Ouais. Et en même c'est temps, un peu c'est comme le roller finalement, si j'ai bien compris. Hein.
Ouais,
chaque
pense
fois, on regarde des gens rider et c'est jamais la même chose, quoi.
Ouais, et puis il y a aussi ce côté partage, parce que comme c'est du jazz, vous êtes capable de jouer avec les autres
ensemble.
Même sans jamais avoir joué ensemble, on va pouvoir jouer ensemble. Et donc oui, il avait fait un album qui s'appelle Formagno, et la chanson qui s'appelle Formagno de Yorgi Leflair, je la trouve vraiment très belle.
On finira là-dessus. Merci Nicolas. Merci.
Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils. Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences. En musique et en anecdotes, un podcast à emporter partout.